Banque Nationale est fière de vous offrir ce commentaire économique. Propulsez votre entreprise avec les solutions bancaires et les conseils d'experts en PME. Avec la Banque Nationale, vous êtes en affaires. Visitez bnc.ca/entreprise.
Économie, finances, affaires, entrepreneuriat. Francis Gosselin.
Bonjour Francis.
Salut Mario.
Alors, un investissement de la caisse de dépôt dont tu nous avais déjà parlé, celui dans Azure Power, entreprise d'énergie renouvelable indienne. Ça continue à pas très bien aller, là.
Ça continue à pas très bien aller, puis c'est les tuiles là, qui s'effondrent les unes après les autres. La semaine dernière, Mario, j'en avais pas parlé, parce que ça me semblait peut-être un peu négligeable, mais la cote de crédit de l'entreprise a été diminuée là, par les agences de notation, donc c'est une assez mauvaise nouvelle. Et là, aujourd'hui, en plus, il y a plusieurs entreprises là, qui sont dans le domaine de l'investissement qui ont décidé de modifier la cible du prix. Donc, c'est notamment le cas de Crédit Suisse là, qui révise sa cible pour le prix d'Azure Power Global d'environ 20% à la baisse et d'autres là, qui indiquent en anglais là, que c'est un sell, donc à vendre. Et donc, ça augure pas bien là, pour la continuité de cette entreprise-là et de son cours boursier qui est aujourd'hui là, autour de 5 $.
Mm-hmm. On fait quoi si on est la caisse? Parce que quand tu te retrouves dans un mauvais investissement comme ça, ben des fois t'es obligé d'en remettre là en te disant ben regarde, le fond est bon. Tu sais, le fond est bon, l'activité de base est bonne, il y a eu des mauvais gestionnaires ou un crosseur comme comptable. Tu sais, ça arrive que, mais tu te dis regarde là, en 2025, personne ne va se souvenir de ça là. J'ai une bonne entreprise qui a des bons produits, un bon fondement, puis on va rattraper tout ça. Ou sinon, à un moment donné, tu te rends compte, comme ils disent là, cut your losses, là, tu sais, coupe tes pertes, passe le couperet. Puis passe la machette puis oublie tout ça. On est où à la caisse, là?
Ben, c'est là, tu sais, j'ai pas ma boule de cristal ni mes antennes magiques Mario, mais c'est certain que la caisse. Puis tu sais, tout ce que tu évoques, là, effectivement, j'ai oublié peut-être de donner du contexte aux auditeurs, là, mais Azure Power a été nombreuses fois miné par des délations anonymes. Le directeur financier, qui est d'ailleurs toujours en poste, a été retrouvé coupable pour une job qu'il a occupé dans le passé. Là. Mais tu sais, généralement, Mario, là, quand tu es dans l'univers de la comptabilité, de la finance, là, quand tu es reconnu coupable pour une infraction passée, tu ne peux plus occuper des postes de ce niveau-là là, dans les organisations comme quelqu'un de confiance. C'est effectivement le cas du directeur financier d'Azure. La caisse en a mis, puis remis. Donc, on est rendu là, à 630 millions de dollars.
OK, mais ce que je dis, là, en remettre, c'est déjà fait, là.
Oui, c'est ça. Et il faut savoir, d'ailleurs, la caisse détient environ 53% de l'entreprise, donc déjà est majoritaire. Mais un autre investisseur en importance, c'est OMERS, là, c'est-à-dire le fonds de retraite des employés municipaux de l'Ontario. Donc, grosso modo, c'est la caisse, tu sais, il y a beaucoup d'argent canadien dans cette aventure-là. Si la caisse, comme tu dis, devait cut their losses et limite fermer boutique là, ou vendre ça pour, dans un espèce de vente de feu, ben ça affecterait également là, nos compatriotes ontariens. Donc ça, éventuellement, on cherche plutôt...
Ils doivent se parler, là. Hein?
Oui, sans aucun doute. D'ailleurs, je crois comprendre qu'il y a des sièges réservés là, pour chacune des deux institutions sur le conseil d'administration. Puis c'est un petit peu là, justement, on essaie d'intervenir pour remettre un peu d'ordre, autant dans les finances, autant dans la gouvernance de manière générale, pour éviter de continuer là, à subir les contre-coups de cette gestion qui semble un peu douteuse, on va le dire comme ça.
Des chiffres, c'est pas le chiffre officiel sur l'inflation, mais c'est des données qui en disent beaucoup sur l'inflation et qui paraissent quoi, un peu plus encourageantes aux États-Unis?
Ouais, ben en fait, j'ai fouillé ça un petit peu, Mario, honnêtement. Tu sais, je me suis toujours fié là, au Canada, on a l'IPC, là, en anglais, Consumer Price Index. Là, c'est l'indicateur qui base, grosso modo, sur les comportements des consommateurs. Et on avait eu les indications là, en début de mois de décembre à décembre qu'aux États-Unis, l'inflation était, tu te rappelleras, de 6,5% environ. C'est une autre mesure, en fait, là, que je découvre graduellement en fouillant le dossier aujourd'hui, qui montre en fait que l'inflation serait plutôt de l'ordre de 5% aux États-Unis. Cet indicateur-là, là, tu me permettras en anglais, c'est le Personal Consumption Expenditures. Et dans le fond, ce que ça fait, c'est que plutôt que de regarder du côté consommateur, on regarde du côté des entreprises. Donc, c'est vraiment, c'est les mêmes jeux de données, Mario, là, mais grosso modo, c'est une lecture qui, a priori, peut sembler peut-être un petit peu plus exacte. Ça fait aussi pas la différence entre qui paye. Donc, par exemple, aux États-Unis, comme tu sais, par exemple, la santé est largement privatisée. Ben, quand on calcule le CPI, on va regarder vraiment juste les dépenses des ménages, alors que le PCE, le Personal Expenditure, excuse-moi, je me mélange dans mes propres acronymes, on va vraiment regarder tous les services de santé, indépendamment de si c'est un assureur, le privé, le public ou un particulier qui a payé. Donc, ça donne une meilleure idée du prix, indépendamment du payeur. Et donc, effectivement, le taux est à 5%, 1,5% de différence avec le CPI, c'est assez majeur. On se rapproche de la cible du 2 à 3% de la Fed. Et donc, ça a évidemment fait beaucoup jaser aujourd'hui, là, le New York Times, le Wall Street Journal, le Washington Post. Tout le monde a titré là-dessus, à savoir que c'était finalement très encourageant là, pour l'économie américaine.
Une entreprise de Québec qui exploitait des Airbnb qui s'est fait ramasser.
Ouais, c'est la nouvelle locale, on va dire ça comme ça, mais je trouvais ça frappant quand même, tu sais, pour tous ceux et celles qui exploitent, comment dire, légalement, là, des établissements, des hôtels et même du Airbnb. Il y a plusieurs municipalités qui encadrent très bien ça. Ben, c'est un exploitant d'immeubles de Québec, là, les immeubles Murray, qui s'est fait attribuer là, 32 constats d'infraction en 2018 pour un total de 148 000 $ Et peu content de devoir payer 150 000 $ d'amende, Mario, ils ont continué certaines de leurs pratiques et donc ils se sont vus remettre 18 nouveaux constats d'infraction. Donc au total, l'entreprise a payé 185 000 d'amende pour ces pratiques qu'on pourrait juger d'illégales, c'est-à-dire non conformes à la réglementation pour évidemment avoir opéré là, des Airbnb, autant dans des unifamiliales que dans du multirésidentiel. Il y avait tout un stratagème derrière ça, le Journal de Montréal, le Journal de Québec en parle, mais donc il semblerait que l'entreprise a maintenant appris sa leçon et n'en fait plus, mais il faudra voir là, s'il y a d'autres comme accusations qui sont envoyées dans les prochains jours, les prochaines semaines.
Ouais, parce que les règles ont été quand même resserré là du côté d'Airbnb, ça a été pendant une époque là, je veux dire, il y avait pas, c'était nouveau puis c'était pas encadré, mais maintenant je veux dire c'est il y a plusieurs règles du gouvernement puis ensuite d'autres des villes, fait qu'on fait
oui,
plus
oui,
puis c'est peut-être pas fini hein, parce qu'avec la pénurie de logements. Oui, je pense qu'on a perdu la communication avec Francis. Allô, allô?
Allô, allô?
Oui, bon. Non, avec la pénurie de logements, ouais. ça s'améliore pas, là.
Non, effectivement. Puis effectivement, des Airbnb qui sont finalement pas conformes au zonage et à la réglementation, mais ça vient enlever éventuellement des logements qui devraient idéalement être réservés pour des résidents à temps plein, Mario. L'aspect qui est un peu, ben, je veux pas du tout prendre la défense de ces opérateurs-là, mais les règlements, justement, ont beaucoup changé. Et donc, je veux pas, encore une fois, faire le défenseur de ces pratiques-là, mais quelqu'un qui aurait fait un investissement, je sais pas moi, en 2018, en se disant, je vais faire un Airbnb, je vais mettre de l'argent là-dedans, je vais investir, un peu comme un entrepreneur, puis là, finalement, en cours de route, les règles du jeu changent.
Ben, je peux dire qu'il y en a plein de ça, là. Je peux te le confirmer
qu'il y en a
plein, là.
Les règles vont vraiment dans un sens, là, Mario. On va se dire, il y en a plus, mais elles sont unidirectionnelles. C'est, on n'en veut pas, on en veut moins. Moi, tu sais, j'ai une maison, là, à Deschambault, près de Québec. Là, tu sais, il y a un nouveau règlement municipal qui vient d'être adopté, là, genre la semaine dernière, pour vraiment, tu sais, plus qu'il y en ait de nouveau, parce qu'effectivement, c'est rendu de.
Mais c'est vrai, au niveau des municipalités. C'est aussi vrai, Francis, au niveau des condos. L'association des copropriétaires d'un bloc de condos, d'une tour de condos.
Absolument.
Le sujet est venu à plusieurs endroits. Puis là, il y avait des gens qui avaient acheté un condo juste pour faire du Airbnb. Et là, ils arrivaient à l'Assemblée. Puis là, c'était la guerre. Là. Mais souvent, ils étaient minoritaires, ceux-là. La majorité, c'était des vrais résidents. Et qui, eux, en avaient assez là, d'avoir des boîtes de pizza qui traînent dans le corridor puis des gens bruyants puis tout ça.
Il y avait un cas particulier, Mario, là, qui était les tours là, des Canadiens. Là, tu sais, juste à côté du Centre Bell. Écoute, je pense que c'était comme une affaire comme 20 ou 25% qui avait été acheté à ces fins-là, mais ça faisait que tous les jours, tous les soirs, tu avais des touristes d'un peu partout au monde qui venaient faire la fête dans ces appartements-là et comme tu dis, qui cochonnaient les couloirs, qui faisaient du bruit, qui défonçaient des murs. Donc, tu sais, c'est vraiment pour la pour les gens qui habitaient là à temps plein. Là, c'est comme un peu l'enfer.
Ouais, sauf que ceux qui ont acheté, comme tu dis, ceux qui ont acheté pour en faire un investissement qui allait rentabiliser avec Airbnb, quand ils sortent de l'Assemblée des copropriétaires puis qui ont perdu le vote à 47 contre 16, qu'on interdit dorénavant la location court terme, ils font put-put, là, tu sais.
Ouais, ceci dit, il y a quand même, tu sais, puis je veux juste pour les gens qui s'intéressent, là, tu peux, par exemple, afficher sur Airbnb n'importe quel logement, puis ça, je pense pas que c'est même permis de l'interdire pour une période de plus de 31 jours.
Ouais, 30, exactement,
gens,
un mois.
Les gens qui veulent opérer ça à la petite journée ou pendant un week-end, là, ça, c'est pas permis. Mais je connais des gens, effectivement, qui ont converti éventuellement leur truc en location à moyen-long terme. Ça, effectivement, la loi ne prévoit pas d'interdiction à ce sens-là.
Non, donc, mais c'est moins payant.
Généralement, c'est moins payant.
C'est ça, c'est ça. Hey, merci, Francis. Bonne fin de semaine.
Bon, bonne fin de semaine à tout le monde. Bye.